Nous voici réunis en ce mois de février pour quelques catéchèses au sujet du message de Notre-Dame de Lourdes. Nous prenons donc en bon bigourdan la direction de la grotte dite de Massabielle, alors que le 11 de ce mois, nous fêterons la première apparition Notre-Dame de Lourdes. Le 18 février, nous ferons mémoire non seulement de la troisième apparition, mais également en notre diocèse et en France, de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette est fêtée le 18 février, c'est-à-dire 8 jours après Notre-Dame de Lourdes, comme conclusion de l'octave des fêtes de Notre-Dame de Lourdes, alors que partout dans le monde, elle est fêtée au jour de son rappel à Dieu, le 16 avril. C'est en effet le 16 avril 1879 que Bernadette Soubirous, en son âme, est montée à la gloire du ciel, alors que son corps reposait auprès des sœurs de Nevers et est conservé aujourd'hui dans cette châsse en verre où on peut voir le corps intact de celle dont les yeux ont vu la Vierge Immaculée. Je voudrais tout d'abord que l'on envisage la grotte de Massabielle. Massa veut dire, en patois, la roche, et vieille, bielle, signifie la vieille, les vieilles roches. C'est ainsi que ce lieu-dit, situé à environ 2 km du centre-ville de Lourdes, était le lieu, avant les apparitions municipales, qui était une tute aux cochons. On va y venir dans cette catéchèse d'aujourd'hui. Lorsque la Sainte Vierge apparaît dans un sanctuaire de notre diocèse que l'on appelle Garaison, elle ne choisit pas ce lieu au hasard. Le lieu de Garaison était un lieu qui portait très mal son nom avant que la Sainte Vierge y apparaisse au commencement de 1515. On n'a pas avec précision les dates des apparitions, parce qu'avec les guerres de religion qui vont faire suite, l'instauration du sanctuaire a été quelque peu chamboulée. Lorsque la Vierge apparaît, elle apparaît à Garaison, au-dessus d'une source, à une jeune fille que l'on appelle Anglaise de Sagazan, qui garde là ses troupeaux. Ce lieu était considéré, avant la venue de la Sainte Vierge, comme un lieu maudit. On le disait très mal nommé parce qu'en passant entre Lannemezan et pour regagner ensuite le Magnoac, c'était une route commerçante si on peut dire, et bien voilà que les bandits, que l'on appelait à Lannemezan les bandouliers, et bien menaçaient les voyageurs et traversaient ces landes, puisque avant qu'il n'y ait les chapelains qui puissent vraiment drainer un peu le sol, c'était tout cela des landes assez mal famées. La tradition nous rapporte qu'il y avait quand même des animaux sauvages, quelques loups, mais surtout, il y avait ces bandits qui, à la croisée des chemins, pour votre bourse, vous blessaient et, au risque de sa vie, ont passé par un lieu mal nommé, Garaison, alors qu'en fait, au lieu de guérison, on y recevait plus des coups mauvais pour sa santé. De même en était-il de ce lieu dont la tradition nous rapporte qu'il était le lieu du rassemblement des sorciers de la Gascogne. C'est là qu'ils venaient célébrer le sabbat des sorciers. Et on dit dans les textes anciens que le démon venait s'y manifester sous la forme d'un bouc. Et c'est ça, le lieu de Garaison, c'était la lana des bocs, la lande du bouc. Donc lorsque la Sainte Vierge apparaît à Garaison, eh bien, elle vient en ce lieu prédestiné apporter la guérison, là où il y avait avant la maladie, les blessures, le risque de perdre sa vie. La Vierge Immaculée vient apparaître également sur ce lieu du rassemblement de la sorcellerie pour y enseigner la bonne nouvelle du salut de son fils. Si je vous rapporte cela, c'est parce que de même que la Vierge a choisi le lieu de Garaison, la Sainte Vierge a choisi la grotte de Massabielle, et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Et il va falloir pour cela développer un regard neuf sur cette grotte de Massabielle. La grotte de Massabielle, elle est déjà exposée plein nord. Alors, puisque la Sainte Vierge, le 2 mars, dans le message de Lourdes, va demander qu'en ce lieu soit bâtie une chapelle et que la demande la plus répétée de Notre-Dame de Lourdes concerne la construction sur ce lieu d'une chapelle, il faut s'interroger sur l'orientation de la grotte. Dans la tradition de la liturgie, vous savez que les églises sont orientées vers le soleil levant, image du Christ ressuscité. Le nord, dans cette même tradition liturgique, c'est le lieu où est annoncé l'Évangile. Pourquoi le nord ? Parce que dans les premiers temps de l'Église, eh bien, les Vandales venaient du nord. Les chrétiens étaient plus vers le sud, et du coup on avait pris, puisque ceux qui ne croyaient pas en l'Évangile venaient du nord, on avait pris pour tradition de lire l'Évangile dirigé vers le nord, parce que le Seigneur s'adresse pas seulement aux chrétiens, il s'adresse également à tous ceux qui ne connaissaient pas l'Évangile, qui symboliquement venaient du nord. Cela nous donne déjà une indication intéressante. La grotte est exposée plein nord, voilà que la Sainte Vierge, sur les bords du Gave, vient annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, la Vierge va demander qu'une chapelle soit bâtie en ce lieu, et on peut constater d'ailleurs qu'en raison de l'exiguïté des lieux, la chapelle n'est pas bâtie sur la grotte, il y avait eu des projets, mais sera bâtie au-dessus du rocher de Massabielle. Mais parce que la ville ne permettait pas que l'entrée du sanctuaire se fasse à l'ouest, puisque la ville est de l'autre côté, les autels au sanctuaire de Lourdes ne sont pas orientés vers l'est. C'est l'inverse, pour permettre aux gens d'arriver de la ville, d'entrer au sanctuaire. Alors ce sont des questions d'orientation, certes, mais voyez que déjà cette indication d'une grotte exposée plein nord nous dit bien que la Vierge, elle vient là, raconter, ou plutôt témoigner, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette grotte fait environ 8 mètres de largeur pour une hauteur approximative, c'est difficile de mesurer cela, de 27 mètres de hauteur. Lorsque Sainte Bernadette, après les apparitions de 1858, retournera à la grotte en 1865, quelques années après, elle écrira ceci: « Tout est tellement changé que je m'y reconnais à peine. » Et Bernadette a beaucoup de mal en 1865, alors que c'est la seule photo que nous avons de Bernadette à la grotte, on lui demande bien de s'agenouiller là où elle se mettait habituellement. Mais c'est qu'elle ne sait même plus, tellement la grotte, en peu d'années, a beaucoup, beaucoup changé. La grotte de Massabielle, c'était un point de rencontre. C'était là où le Gave, ou plutôt ça serait l'inverse qu'il faut dire, c'était là où le Gave passait, environ au milieu de la grotte, et longeait véritablement la grotte. C'était le lieu où un peu plus haut, on avait détourné le Gave pour faire passer un canal qu'on appelle le canal de sa vie. Le canal de sa vie, c'est un moulin qu'il y a un peu plus haut. Aujourd'hui, il faudrait le situer environ au lieu du forum information, là où se trouvent les bureaux du recteur, des chapelains, au-dessus de la librairie. Ce moulin était par là, et il y avait donc ce canal, eh bien, qui, devant la grotte, le canal de sa vie, se jetait dans le Gave. De telle sorte que ce lieu de Massabielle, c'est moins vrai aujourd'hui, était un tout petit, pas îlot, c'est exagéré, mais était un mouchoir de poche au milieu des eaux. Il y a le canal de sa vie, qui fait environ 3 mètres de largeur, et à moins de 10 mètres de la grotte, voilà que le Gave venait se jeter. Voyez que déjà aujourd'hui, on a fait reculer le Gave, pour pouvoir avoir un minimum d'espace à la grotte où la Sainte Vierge convoque l'ensemble du peuple chrétien, nous le verrons. Il y avait donc ce que l'on appelait l'île du chalet, parce qu'il y avait un chalet, vous savez, c'est comme à Bagnères, c'était au XIXe siècle, ces maisons qui, avec des jolis bandeaux de bois, étaient des maisons un peu cossues de la bourgeoisie qu'on appelait des chalets. Donc il y avait sur cette espèce d'île, ça fait une île, puisque du coup le Gave contourne et le canal fait qu'il y a un côté insulaire, eh bien il y avait ce chalet. Et Bernadette, quand elle va arriver le 11 février, par l'île du chalet, va devoir traverser non pas le gave. Parfois, les pèlerins pensent, en voyant le gave tel qu'il est aujourd'hui, que Bernadette a dû traverser le gave. Il est absolument impossible de traverser le gave tel qu'il est aujourd'hui. Bernadette a traversé le canal de sa vie. Donc déjà, il est intéressant de voir combien la grotte est un tout petit lieu, malgré le monde qui va y arriver, un tout petit lieu où la Sainte Vierge va apparaître. Il y a devant la grotte, c'est aussi pourquoi Bernadette ne s'y reconnaît pas, il y a devant la grotte trois énormes blocs. Hein, on pouvait appeler ça parfois, ces rochers, on les a appelés les tortues géantes, parce que c'était vraiment trois énormes rochers qu'il y avait posés devant la grotte, et c'était entre deux de ces rochers que Bernadette avait coutume de s'agenouiller en face de cette niche rocheuse dans laquelle la dame va lui apparaître. Une niche rocheuse derrière laquelle, vous ferez attention lorsque vous retournerez à Lourdes, derrière laquelle, aujourd'hui il y a la statue, mais derrière cette statue, on voit bien qu'il y a une grosse pierre carrée d'environ 1 mètre de hauteur. C'est un bloc erratique qui lui vient de la fin de l'époque glaciaire. Parce que dans les temps jadis, il y avait tout cet océan de glace, et là, il reste encore quelque chose de cela. Dans la niche, il y a un gros caillou, bloc erratique, coincé de la fin de l'époque glaciaire. De telle sorte, voyez-vous, que l'on a quand même un élément naturel dans lequel la Sainte Vierge va apparaître. Il y a le Gave, qui est quand même un fleuve naturel. Puis il y a le canal de sa vie, qui lui est creusé de main d'homme. Vous voyez déjà toute la symbolique qu'il peut y avoir. Il s'agit d'une grotte. Et il faut se souvenir, ou du moins apprendre, que l'Annonciation, si elle s'est déroulée sans doute dans la maison de la Sainte Vierge, n'est pas étrangère à une grotte. Car dans la tradition biblique, dans la tradition de cette époque-là, eh bien, il y a des grottes devant lesquelles on va bâtir une maison. De telle sorte, quand on va aujourd'hui visiter la basilique de l'Annonciation à Nazareth, il ne reste pas les murs de la maison, mais il y a bien la grotte. C'est ce qu'on appelle la grotte de l'Annonciation. Lorsque l'on sait que la Sainte Vierge, en apparaissant le 25 mars 1858, va comme reprendre les termes de la proclamation de sa conception immaculée, en disant « Que soyera immaculada », « Moi je suis l'immaculée conception », on voit bien qu'il y a entre la grotte de l'Annonciation et la grotte de Lourdes un parallèle. Le lieu où l'archange l'a saluée comme la comblée de grâce, la grotte de Nazareth, nous renvoie aussi à la grotte de Lourdes, où la Vierge, le 25 mars, le jour où on fait mémoire de l'Annonciation, nous dit bien, ben voilà, l'archange a dit que j'étais comblée de la grâce, je suis l'Immaculée Conception. Donc il y a aussi un lien. Ce même lien avec la grotte nous renvoie à l'incarnation du Sauveur. On lit dans l'Évangile qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph lorsqu'ils arrivent à Bethléem dans la salle commune. Mais où vont-ils donc? S'il n'y a pas de place dans la salle commune, c'est parce qu'ils vont, eux, aller dans la grotte. De même en était-il du lieu de la nativité. La grotte est en fait comme une étable, dirions-nous chez nous. Vous savez, nous, dans nos fermes, il y a le bâtiment de la ferme qui va être le lieu familial où on va vivre, et puis à côté, il y a les étables. Mais chez eux, l'étable est à l'intérieur. Donc du coup, c'est là où on va mettre les troupeaux. Souvenez-vous également, dans une page d'Évangile, celle de l'ami inopportun. Il vient frapper à la porte, il dit « J'ai un ami qui vient d'arriver, donne-moi du pain. » Et le maître de maison lui dit « Mais je ne peux pas venir ouvrir la porte. Pourquoi ?» Et parce que tout le monde est en train de dormir devant la porte. Et que venir lui ouvrir la porte, ça veut dire réveiller tout le monde, faire sortir tous ceux qui servent de lit, les paillasses, etc. Il ne le peut pas. Voilà comment l'on vivait. Donc déjà, quand on considère la grotte de Lourdes, il ne faut pas y voir simplement le lieu naturel, mais c'est aussi le lieu, une grotte, où il y a eu l'Annonciation. C'est aussi dans la grotte de Bethléem, que l'on va toujours visiter en allant ainsi à la basilique de la Nativité, qu'a eu lieu la naissance du Seigneur Jésus. dans notre tradition occidentale, de cette grotte, on en a fait une étable. Parce que pour eux, la grotte était le lieu où se mettaient les animaux, comme pour nous, l'étable. Hein, ce qu'on a appelé la crèche, et qui a donné ensuite le nom à ces écoles et institutions qui accueillent les nourrissons, désigne d'abord cette grotte de Bethléem. Vous voyez déjà, je vous dis, Agarézon, elle n'a pas choisi ce lieu au hasard. C'était un lieu où elle apparaît pour conjurer une malédiction, apporter la guérison là où il n'y avait que les blessures. Vous voyez qu'à Lourdes, hein, le fait d'avoir choisi une grotte nous renvoie et au mystère de l'incarnation du Seigneur, la grotte de Bethléem, et au mystère de l'Annonciation, dans lequel non seulement l'archange va la saluer comme étant pleine de grâce, mais dans laquelle nous allons retrouver un mot que nous méditerons, c'est celui de conception. Hein? La Sainte Vierge entend, ça nous est rapporté dans l'Évangile selon saint Luc, l'archange Gabriel lui dire que sa vocation, c'est de concevoir et enfanter le Fils de Dieu dans l'ordre de la chair. Elle va devenir la Mère de Dieu. Et ce qu'elle va venir nous dire à Lourdes, c'est qu'elle vient à Lourdes pour nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Nous approfondirons ce point un peu plus tard. Mais vous voyez déjà que la grotte n'est pas un lieu anodin pour le lecteur des Saintes Écritures, mais aussi pour le pèlerin qui, en Terre Sainte, avec les Écritures, va voir également ce que lui dit l'archéologie. Donc nous sommes dans une grotte. Il y a donc ces énormes rochers. Et il ne faut pas non plus imaginer la grotte comme étant quelque chose de plat. Au contraire, lorsque le canal de Savie ou le Gave déborde, ils ont tendance à rentrer dans la grotte et à faire remonter le sol. De telle sorte qu'en 1865, quand Bernadette revient à la grotte et ne la reconnaît pas, on a énormément baissé le sol de la grotte, on lui a enlevé tout le sable. Hein, il y avait, dans cette grotte de Lourdes, beaucoup de terre argileuse, sableuse. Quand on demandait « qu'est-ce qu'il y a à Massabielle ?» et Bernadette le dira, « qu'est-ce qu'elle a vu le 11 février ?» elle a vu du sang, de l'eau et du sable. Du sang et de l'eau, déjà c'est pas anodin, parce que ça nous rappelle aussi hein, le cœur transpercé du Seigneur, d'où il sort du sang et de l'eau, c'est déjà l'image de la source que la dame va faire jaillir. Hein, la source qui est bien le cœur du Christ ouvert qui nous invite à venir boire et se laver. Mais voilà que dans cette grotte, il y avait beaucoup de sable et du sang symbolique, parce que la Sainte Vierge nous parle aussi par des symboles. Hein, eh bien, il y a le roc, il y a le sable. Comment ne pas entendre dans ces deux réalités, lorsqu'on sait que la Vierge va insister pour qu'en ce lieu soit bâti une église, entendre eh bien, la parabole hein, où le Seigneur nous invite à bâtir notre maison sur le roc et non pas sur le sable. C'est ce que je vous lis maintenant. Cette parabole, enfin, parabole nous est rapportée dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, versets 24 à 27. C'est assez court. Je vous le lis maintenant. Et puis, du coup, voilà, vous faites résonner la grotte à l'intérieur et cette demande de la dame que soit bâtie en ce lieu une chapelle. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique, dit le Seigneur, peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. Massabielle étant, je vous ai dit, Massa, c'est la roche, c'est vraiment ce que ça veut dire, Massabielle, la vieille roche, et étant si près du canal de Savie et du Gave, pleine de sable, la Vierge, ne cessant de demander et de répéter, c'est la seule chose qu'elle répète de tout le message, qu'elle veut qu'en ce lieu soit bâti une chapelle, on comprend finalement que c'est Notre-Dame de Lourdes, la mère de l'Église, qui apparaît, on méditera ça, hein, et qui demande qu'en ce lieu, sur le roc, soit bâti la chapelle. Lorsque les premiers chapelains, sous la férule de Mgr Laurens, l'évêque des apparitions, s'interrogent sur bâtir la chapelle, on est déjà confronté à ce problème d'orientation dont je vous ai parlé. Et la ville est d'un côté, on ne peut pas, si vous voulez, faire entrer les pèlerins de l'autre côté. Donc il va bien falloir faire exploser la roche, parce que c'est ce que l'on a fait, et ensuite creuser l'intérieur de la grotte pour plus tard bâtir la basilique du Rosaire. Le projet architectural à Lourdes est des plus audacieux. Mgr Laurens, lui, fait bâtir la chapelle au-dessus du roc de Massabielle. C'est la première chose qu'il fait bâtir. La crypte, qui aujourd'hui se trouve bizarrement entre la basilique de l'Immaculée Conception au-dessus et celle du Rosaire en dessous. Une crypte, ce n'est pas au milieu. Une crypte, c'est dans les fondations, comme nous pouvons voir ici en l'abbatiale de Madiran, où a été redécouverte cette magnifique crypte sous le chœur, fort ancienne. Hein? Donc là, on comprend maintenant pourquoi on continue à l'appeler la crypte. C'est ça, à cette inauguration que Bernadette va assister, habillée en enfant de Marie. Et ensuite, sur cette crypte, on va bâtir la fameuse chapelle qui regarde le château, qui regarde la ville de Lourdes. Un peu plus tard, on va faire exploser le rocher, et ensuite on va creuser le rocher de Massabielle pour y intégrer la basilique du Rosaire. Ce projet est quand même audacieux. Voilà que l'église, du point de vue visuel, quand on se trouve à la grotte, on a la basilique au-dessus, l'église est bâtie sur le roc. Et il y a quelque chose dans la symbolique et la topographie des lieux qui nous donne à voir cette parabole, bâtir sur le roc ou bâtir sur le sable. S'il s'agit vraiment de l'église, cette maison que le Christ vient bâtir, n'oublions pas que Jésus a repris le métier de Joseph, dont on dit, nous, en notre tradition, charpentier. C'est vraiment celui qui construit la maison du début à la fin, si on peut dire. Il n'y a pas encore des corps de métier aussi spécifiques qu'à notre époque. Vraiment, le métier de Joseph est de bâtir une maison. Et au point de vue symbolique, le Seigneur Jésus vient bâtir la maison qui est l'Église, le lieu où tous les baptisés, les disciples, sont réunis. Quand la Vierge demande qu'en ce lieu soit bâti une chapelle, elle veut vraiment qu'il y ait la convocation de ses enfants. Pourquoi ? Je vous l'ai déjà dit. Parce qu'elle veut nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Elle veut faire de nous ses enfants. Elle veut que nous retournions à Dieu, dont le grand dessein est de nous adopter. Elle entre pleinement dans ce dessein de Dieu et elle veut venir nous y chercher. Donc voilà déjà le roc. Je voudrais vous lire cette même parabole chez Saint Luc au chapitre 6. Saint Luc, vous allez voir, développe un peu autrement cette parabole, du moins dans ce qu'il en Il en hérite de la tradition de Saint Paul, c'est au chapitre 6, je vais y arriver. Il nous dit ceci au verset 47, c'est le Seigneur qui parle. « Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. » C'est vraiment l'image de la basilique, enfin de l'église qui a été construite sur ce roc. Une crue survenant, ben on en a connu il n'y a pas si longtemps que ça des crues. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous voyez que cette image, quand la Vierge demande une chapelle, elle veut vraiment qu'il y ait le lieu où l'église soit rassemblée. Et c'est aussi l'image, malgré les inondations que nous avons pu connaître, c'est vraiment l'image, être bâti sur le roc, c'est avoir bâti sa vie sur le Christ, et en cela nous sommes comme inébranlables. Ça ne veut pas dire que les épreuves ne nous assailliront pas, mais ça veut dire qu'en bâtissant sa vie sur le Christ, nous sommes suffisamment fondés pour résister. Et vous voyez, dans tous ces temps que nous traversons dans l'Église, la Vierge en 1858 veut vraiment bâtir comme un refuge à Massabielle, ce lieu où elle va accueillir ses enfants. Je vous disais également qu'avant les apparitions, la grotte est la tute au cochon. C'est comme ça que l'on l'appelle. Depuis le XVIIe siècle, et les archives de Lourdes sont assez abondantes en ce sens, Massabielle est devenue la porcherie municipale jusqu'en 1858, où en raison des apparitions, ben, cette destination s'arrête. Samson, en 1858, est le pourcaisse, comme on dit chez nous, le porcher qui conduisait là entre 70 et 150 porcs. C'est-à-dire que les lourdés dans la ville de Lourdes avaient des porcs, nourrissaient leurs porcs, mais la journée, on n'allait pas les laisser comme ça, il fallait quand même les sortir, qu'ils aillent manger, qu'ils aillent... Donc du coup, voilà que le pourcaisse passait, l'été aux environs de 10 heures, eh bien voilà que Samson passe dans les rues de maison en maison, récupère les porcs, va les conduire à Massabielle et vers 16 heures les ramène dans les différentes porcheries des maisons de Lourdes. C'est quelque chose qui pour nous est un peu... enfin qui n'est plus dans nos us et coutumes. On voit encore dans certains de nos villages les vaches rentrer le soir à l'étable, mais moins les porcs. Voilà, il y avait vraiment cette tradition-là. Et Samson nous dit bien qu'à l'époque des apparitions, entre 70, mais lui dit plutôt 150 porcs dont on s'occupait. Vous voyez un peu le troupeau que cela représentait. Alors on sait même le tarif, il fallait une mesure de maïs, un à deux sous par tête, pour justement justifier le... ben, pour payer Samson. Et donc, qu'est-ce qui va se faire? On arrive à la grotte de Massabielle par le dessus. Pas par le... on ne va pas passer par le canal de sa vie. On arrive par ce qu'on appelle la route de la forêt, donc on passe au-dessus de la grotte, il n'y a pas la basilique de l'Immaculée Conception. Et ensuite, il va y avoir dans l'histoire de Lourdes ce qu'on va appeler la ravine. La ravine qui est ce lieu qui descend quasiment tout droit entre le haut de la route de la forêt et le niveau du sol où se trouve la grotte. Cette fameuse ravine, où Bernadette, à la deuxième apparition, descendra et remontera, eh bien, a été creusée par les porcs, et Samson nous dit que c'était tellement abrupt qu'il faisait partir les porcs deux à deux, et que c'est eux qui ont finalement creusé ce petit sentier, si on peut dire, qu'on appelle également le casse-cou. Donc vous voyez bien que c'est délicat. Madame Millet finira à la troisième apparition en arrivant très tôt le matin sur sa robe, et René Laurentin expliquera que Madame Millet se relève et il dit elle remet en place sa dignité et elle finit par arriver à la grotte. Donc vous voyez que beaucoup vont tomber, on finit souvent sur ses jupons en arrivant là. C'est les carriers qui, à force que les apparitions, il va y avoir de plus en plus de monde, le 3 mars, il y aura 4000 personnes à la grotte, vont commencer à tracer d'autres choses pour renforcer ce lieu. Et les gens seront toujours très étonnés de voir Bernadette d'étaler la ravine, s'interrogeant sérieusement si ses pieds touchent même le sol. Bernadette, elle est appelée à aller à la grotte, attirée même, et elle qui a de l'asthme, qui ne peut pas vraiment courir, elle va à la grotte. Et elle remonte la ravine, c'est ce qui va d'ailleurs étonner sa sœur Toinette dès le 11 février, après avoir vu la dame. Normalement, c'est Toinette qui aide Bernadette à remonter, à porter le panier, et là, c'est Bernadette qui fait l'aller-retour, porte le panier, va aider sa sœur, et Toinette de lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas comme ça d'habitude. Ben voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Donc vous voyez, cette ravine va être creusée par les porcs. Le lieu était idéal pour en faire la porcherie parce que c'est un lieu humide. Oui, c'est plein nord, il n'y a pas beaucoup de soleil, on le sait en allant prier à la grotte. C'était un lieu où il y avait quand même suffisamment d'herbe. On entend la dame aller manger de l'herbe qui se trouvait aussi dans la grotte. Les porcs se baignent dans le petit ruisseau, dans le Gavenon, mais dans le canal de sa vie. Et surtout, les porcs ont des démangeaisons. Et du coup, la grotte est parfaite pour eux parce qu'ils ne vont faire l'été qu'aller se gratter autour de la grotte de Massabielle. De telle sorte qu'aujourd'hui, on voit le rocher poli par tous les pèlerins qui passent leurs mains, leurs mouchoirs, mais qu'avant eux, un peu en dessous, la grotte a d'abord été polie par les porcs. Et ce lieu de Massabielle, qui est donc quand même depuis le XVIIe siècle, a une véritable tradition à Lourdes, c'est le lieu, c'est la porcherie, la tute aux cochons. Et il y a cette expression, avant les apparitions, qui dit ceci: « Il doit avoir fait son éducation à la rive de Massabielle. » Quand on voit l'enfant pas très propre, qui mange pas bien, qui... « Il doit avoir fait son éducation à la rive de Massabielle. » Sous-entendu, il a été élevé au milieu des cochons, celui-là. Donc vous voyez que c'était vraiment bien inscrit dans la tradition. Mais symboliquement, qu'est-ce que cela veut dire? Le porc, c'est l'animal de l'impureté par excellence dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Garder des porcs pour un juif, mais c'est la déchéance totale. Et que fait le fils prodigue ? Ben oui, il a tout dépensé. Et la seule chose qui lui reste, c'est de trouver un emploi dans une terre étrangère. Et on lui demande de garder les porcs. Quand je vous dis à Garaison, la Sainte Vierge apparaît sur un lieu qui était plutôt dévoué aux démons et où le mal était pratiqué, et elle apparaît comme pour conjurer le sort et apporter la guérison là où il y avait les blessures profondes, au sens littéral on comprend, et au sens spirituel, la Vierge vient guérir nos âmes, à Garaison comme à Lourdes par ailleurs. Et bien vous voyez que ce rapport de la tute au cochon nous renvoie en l'évangile selon saint Luc à la parabole du fils prodigue. Je ne vais pas vous lire toute la parabole, mais seulement ce dialogue intérieur que le fils prodigue pose alors qu'il décide de retourner vers son père. Alors, on arrive au verset, tout le monde a bien en tête la parabole du fils prodigue, au verset 14, je vous ai donné Luc 15, 11 à 32, pardon, la parabole. Verset 14, on lit ceci, « Quand il eut tout dépensé, notre fils prodigue, et le frère aîné dira plus tard avec des filles, c'est qu'il connaît son frère. Et quand il a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. » C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Garaison. La Sainte Vierge à Garaison, à la troisième apparition, va multiplier le pain dans une période de famine. La Vierge va dire « Allez en votre maison anglaise, ouvrez le coffre à pain » et le coffre à pain se trouvera miraculeusement plein de bonnes miches de pain, de telle sorte qu'Anglaise et sa famille distribuent ce pain et à la troisième apparition, tous ont entendu la Vierge parler. Quand elle apparaît à la jeune Anglaise, que fait Anglaise ? Elle mêle, nous dit-on, ses larmes à l'eau de la source et elle est en train de tremper dans l'eau le vieux pain noir qu'elle a, parce qu'il est tellement vieux qu'elle ne pourrait pas le manger si elle ne le trempait pas dans l'eau. On meurt de faim. C'est aussi cette expérience que fait le fils prodigue ici. Et la Vierge, du coup, va transformer ça en bon pain blanc. Il y a aussi un parallèle saisissant entre Anglaise de Sagazan et Bernadette, c'est que Bernadette, à l'époque des apparitions, en raison du choléra, de cette santé chétive qu'elle avait, ne pouvait même pas manger la bouillie de pain que l'on mangeait au cachot. On était obligé de lui acheter une belle tranche de pain blanc. C'est déjà le pain que la Vierge donnait à Anglaise de Sagazan. Revenons non pas à nos moutons, mais à nos porcs et à notre fils prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il se commença à se trouver dans l'indigence. C'est exactement ce qui s'est passé pour Sainte Bernadette. On dit souvent que Sainte Bernadette était pauvre. Ben, elle ne l'a pas toujours été. Lorsqu'elle naît, Sainte Bernadette, elle naît dans une famille de meuniers qui exploitent le moulin de Bolly, un héritage du côté Castéro, du côté de la mère de Bernadette. Et le moulin est un bon moulin. C'est pas la vie opulente, n'exagérons pas, mais on vit bien de son travail, et le pèlerin de Lourdes qui va visiter le moulin de sa vie voit qu'il y a plusieurs pièces, une chambre en bas, le côté du meunier, les pièces en haut. C'était une vie confortable. Bernadette parlera de ses 10 premières années comme le moulin de Bolly, le moulin du bonheur. Elle a la chance, un peu atypique à son époque, que ses parents aient fait un mariage d'amour. François Soubirous devait épouser la sœur aînée de Louise. Et François, lui, était amoureux de la seconde et il avait beau dire tout ce qu'il voulait, qu'elle était meilleure ménagère, ce qui n'était pas vrai, ce qu'elle était plus ceci, plus cela, il était amoureux de la blonde aux yeux bleus qu'était Louise. Et du coup, il va se marier avec la cadette, ce qui normalement ne se faisait pas. Et en se mariant avec la cadette, il n'épouse pas l'héritière, puisqu'en Bigorre, les filles sont également héritières, de plein droit quand on est la fille aînée. Donc, vous voyez que ne serait-ce que le début de cette parabole du fils prodigue nous dit déjà beaucoup de choses dans l'ordre symbolique de ce qui se passe et à la grotte et jadis à Garaison. Donc, il commença à se trouver dans l'indigence. Bernadette n'a pas toujours été pauvre, mais voilà que, on pourrait dire entre 1854 et 1858, mais avec précision, 3 ans et 3 mois, entre la proclamation du dogme et les apparitions de Lourdes, voilà que la famille Soubirous va tomber petit à petit dans la pauvreté. Ce n'est pas une chute immédiate. Hein, on va vendre un moulin, on va essayer d'en racheter un autre, ça ne fonctionne pas. La grand-mère meurt, on reçoit un héritage. On part à Arcisac-Esangle en pensant louer un nouveau moulin très cher. Ils n'ont pas la notion de, ce n'est pas des grands calculateurs. François signe d'une croix. Voilà, ce n'est pas la même culture. Il se dit, on va rajouter l'élevage, etc. Et au bout de quelques mois, il faut partir. Il a dépensé plus que ce qu'il n'avait. Ça fait partie, si vous voulez, de la pauvreté. C'est pas seulement le fait de ne pas avoir l'argent, c'est aussi de ne pas savoir le gérer, cet argent. Voilà. Donc du coup, il sombre petit à petit. Bernadette, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit que les charrettes des déménagements sont de plus à plus petites. Et voilà qu'en 1858, on demande au cousin Sajousse, qui vit dans la rue du Cachot, si on peut vivre dans l'ancienne prison de Lourdes. C'est l'ancienne prison de Lourdes. Le lieu est tellement insalubre qu'on n'y met même plus les prisonniers. Il loue ça un peu à quelques Espagnols de contrebande de passage qui repartent aussitôt. Voilà le lieu où ils vont aller vivre, chez le cousin Sajousse, au Cachot. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose aussi qui, en Bernadette, nous montre déjà l'image aussi de ce fils prodigue. Donc là, notre fils prodigue, il est tombé vraiment là dans l'indigence. C'est-à-dire Bernadette, elle ne tombe pas dans la pauvreté, elle finit dans la misère au Cachot. C'est la misère. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Et là, petite note de la Bible de Jérusalem, pour un juif, nous dit la Bible, c'est le comble de la dégradation, car le porc est un animal impur. Deutéronome 14, verset 8, on nous dit bien que le porc, c'est vraiment l'animal de l'impureté. Pur et impur, pour nous, on se demande un peu. Pur, c'est je suis en contact avec Dieu. Je suis membre de l'Alliance. L'impureté me coupe de l'Alliance. Nous, qu'est-ce qu'on dirait ? Cette pureté et cette impureté, c'est l'image du péché pour nous. Le péché me coupe de la grâce. Et quand je suis en état de grâce, je ne suis pas dans le péché. Pur, impur, voilà. Et le porc, c'est le symbole même de l'impureté. C'est quand même ce lieu qu'a choisi la bienheureuse Vierge Marie. Je me rappelle dans le récit, je n'y étais pas hélas, mais dans À force de lire, c'est comme si on y était. Les jeunes filles, quand Bernadette, à l'école des indigentes, on la force un peu à raconter les apparitions, c'est surtout sa sœur Toinette qui veut que tout le monde sache que sa sœur a vu une jolie jeune demoiselle. Les jeunes filles lui disent mais tu n'as qu'à aller voir ta va-nu-pied à la tute au cochon. Bernadette, elle a une va-nu-pied, puisque la Vierge apparaîtra sans chaussures. Alors là, en plus, sans chaussures, on verra le symbole. Tu n'as qu'à aller voir ta va-nu-pied à la tute au cochon. Mais c'était vraiment là. En plus, dans la tute au cochon. Si quelqu'un devait apparaître, certainement pas dans la porcherie municipale. Et pourtant, voilà ce que Dieu a choisi. Donc là, on a bien ce jeune homme qui, en plus, garde des porcs. Et là, il y a un très beau dialogue, rentrant alors en lui-même. Ça, c'est déjà une très, très belle expression. Il rentre en lui-même pour faire un peu comme la lumière sur ceux qui viennent de vivre. Il a tout dépensé dans sa vie de débauche. Il a voulu se séparer de sa famille, de son père, profiter de l'existence. C'est un peu la cigale et la fourmi. Enfin, c'est surtout la cigale, là. Et le jeune frère, c'est la fourmi qui est restée travailler à la maison, si Monsieur de La Fontaine nous permet quelques références bibliques. Donc, du coup, on nous dit donc, il va rentrer en lui-même. Il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » C'est cette démarche de conversion que va opérer le fils prodigue. Il va revenir vers ce père, et c'est là où le Seigneur veut surtout attirer notre attention. On appelle assez improprement cette parabole la parabole du fils prodigue, parce que nous, on est vraiment dans le péché. Alors du coup, pour nous, c'est le fils prodigue. Mais Jésus, de qui veut-il parler ? De son père. Il veut parler du cœur de Dieu. Il y a plus de joie. Voilà. Et là, du coup, c'est le père qui va aller au-devant du fils. Eh bien, la Sainte Vierge, voyez-vous, sur les bords du Gave, eh bien, elle vient ainsi nous faire entrer en nous-mêmes pour toucher du doigt où se trouve notre péché. La grotte avec ses porcs, c'est donc l'image de l'impureté. Qui c'est qui vient y apparaître ? La toute pure, la Vierge Immaculée, qui vient au secours des pécheurs. Et pour cela, elle a un but très précis. Elle vient instaurer un pèlerinage. le pèlerinage de Lourdes. Je vous ai dit, la Vierge va demander le 2 mars la construction de la chapelle à partir du 2 mars, car elle va le répéter. Mais qu'est-ce qu'elle va dire aussi le 2 mars ? Je veux que l'on vienne ici en processio. Processio, oui, en patois, c'est la procession quand localement on comprend que le lieu est proche. Les Lourdais n'allaient pas aller en procession 2 km, n'allaient pas aller pardon, en pèlerinage à 2 km de chez eux. Donc on traduit par le mot procession. Mais pour quelqu'un qui est de beaucoup plus loin, processio désigne aussi le pèlerinage. Allez dire au prêtre que l'on vienne ici en pèlerinage et que l'on y bâtisse une chapelle. La dame demande ça le 2 mars, mais au préalable, elle a fait vivre à Bernadette ce que va être le pèlerinage de Lourdes. Il faut aller à la source, boire et se laver. Mais de quoi faut-il se laver ? De nos péchés. Voilà aussi pourquoi elle veut la chapelle. Voilà aussi pourquoi elle fait venir les prêtres. Elle veut faire vivre la conversion. Quand Bernadette va se laver à la source et que la source est boueuse, elle apparaît avec son visage revêtu de glaise, de boue. Son visage est rouge, de boue. Et un de ses cousins, instituteur, qui viendra assister aux apparitions, a reçu intérieurement un choc en voyant ainsi Bernadette, en disant « Ce visage que j'ai vu de Bernadette, rougi par la boue, était en lui-même un appel à la conversion. » C'est ça qu'ils ont compris à Lourdes. Hein, Bernadette qui va manger l'herbe, on lui dit « Ah, mais tu manges de la salade, comme les porcs, comme les... » Et à l'abbé Serre, qui l'interrogera, le vicaire, le jeune vicaire de Lourdes, elle ne répondra pas comme plus tard au procès ecclésiastique « On mange bien de la salade », ce qui est aussi une très bonne réponse. Elle répondra pour les pécheurs, parce qu'elle a bien compris que la Vierge lui fait poser des actes de pénitence pour les pécheurs. Que dit-elle ? Priez Dieu pour les pécheurs, allez à la source, boire et vous laver. Pénitence, pénitence, pénitence. Voulez-vous manger de l'herbe qui est là pour les pécheurs ? Voyez, tout ça, hein, la Vierge s'en sert et la grotte de Massabielle représente symboliquement tout cela. Voyez, il y a les échos. Hein, à l'évangile. Je vous dis, cette grotte, elle est pleine d'or. C'est aussi parce que la dame connaît, bien sûr, les Saintes Écritures. On nous dit qu'elle gardait et méditait tous les événements de la vie de son fils. Elle commence le 11 février par le signe de la croix. Le 25 février, elle fera jaillir l'eau de la source. Le 25 mars, un mois après, elle va révéler son nom. Entre Garaison et Lourdes, on comprend bien que la Vierge ne choisit pas un lieu anodin. Le lieu de Massabielle, symboliquement, parle.